Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puisqu'un concert aura lieu demain au Conservatoire de Musique de Nouméa en hommage à cet édifice. Et pour en parler, je reçois Jean-Pierre Cabé. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Oh, très bien.
Alors, on va dire un tout petit mot sur vous. Vous êtes guitariste et vous avez été directeur du Conservatoire pendant un bon moment, pendant 16 ans, 17 ans ?
17 ans, oui.
17 ans. Mmh. Et là, en l'occurrence, vous êtes là pour aujourd'hui pour parler de ce concert, parce qu'à partir de 16h, il va y avoir une projection de documentaire sur l'édifice, sur Notre-Dame et sur son histoire aussi. Et puis il va y avoir une conférence que vous allez donner. Oui. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit mot.
Alors demain, 17h au Conservatoire, la conférence.
Ah, très bien.
Oui. Et donc, effectivement, je vais évoquer la création de l'école de Notre-Dame autour du chantier de la cathédrale et de ces musiciens qui sont des musiciens chanoines, moines, etc., chantres, qui vont faire évoluer la musique de façon considérable parce qu'ils vont créer la polyphonie.
Oui, bien sûr. Mmh. Alors ça commence à quel moment ? Dès le début ?
Mais dès le début, oui, tout à fait. La cathédrale, les travaux commencent en 1163 et le premier service c'est en 1182, 19 ans après le début des travaux.
Ah, oui.
On dit toujours c'est deux siècles, mais au bout de 19 ans, on a déjà la nef et on peut faire des services religieux dedans. Et là, les musiciens vont commencer à travailler autour d'une deuxième voie qu'ils vont installer sur la première voie.
Mmh. Mmh. Alors, pour illustrer ceci, peut-être que vous avez préparé un extrait sonore ?
Oui. Alors, en fait, il faut bien comprendre que nous sommes dans un siècle de lumière, hein, le 12e, 13e siècle, c'est le réchauffement climatique, l'optimum climatique médiéval, on peut travailler l'hiver, ça gèle pas, on a des récoltes, on est riche, c'est un siècle d'or, hein.
Ouais.
Il y a une effervescence incroyable à Paris. Mais on est figé dans une liturgie ancienne, c'est le chant grégorien.
Oui, bien sûr.
Et partout en Europe, le grand pape Grégoire le Grand, a imposé une liturgie qui est toujours la même, qui est une fusion de différents chants anciens. C'est le chant grégorien, on chante le même partout, c'est figé, on n'en bouge pas depuis plusieurs siècles, depuis le 7e siècle, on n'en bouge pas. Et c'est ça qu'on a finalement au début de la construction de Notre-Dame, on a cette musique-là. On peut peut-être l'écouter un petit peu.
On va écouter ça tout de suite, un chant grégorien, un kyrie. Donc c'est un extrait de chant grégorien, un kyrie. Mais moi j'ai une question, c'est qui est-ce qui a composé ça ?
Alors c'est figé depuis le 7e siècle.
D'accord.
Finalement c'est le Vatican.
D'accord.
Qui impose avec ses moines chantres, ses moines musiciens, qui impose cette unification de la chrétienté finalement, parce qu'on chante la même chose en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France.
Oui, donc c'était une façon pour que tout le monde se sente à faire la même chose en fait, tout le monde se sente dans le même bain en fait.
Voilà. Alors on en est là et les musiciens musiciens de la cathédrale vont imaginer de mettre une deuxième voix par-dessus.
D'accord, voilà. Ils prennent cette décision de leur propre chef ?
Alors non, il y a des essais qui sont faits à droite et à gauche. Uh-huh. Déjà depuis le Xe siècle, dans d'autres cathédrales, à Lens, à d'autres endroits, Senlis, etc. On a déjà travaillé là-dessus. Mais en fait, voilà ce qu'on fait. On prend un chant grégorien et on va caler en dessous un bourdon. C'est-à-dire ce qu'on appelait la teneur à l'époque, qu'on appelle maintenant d'ailleurs au XXe siècle la pédale, vous savez, parce qu'on peut appuyer sur la pédale de l'orgue, alors ça fait un bourdon. Mais le bourdon, on le trouve aussi dans la musique indienne. Hein.
Oui, c'est vrai.
On entend le bourdon, la musique arabo-musulmane.
Oui, aussi, oui.
Voilà. Donc, ils appellent ça la teneur, c'est l'origine du mot ténor, d'ailleurs. Mmh. Et on fait une deuxième voix qui, cette fois-ci, elle est composée, la vox principalis, on l'appelle. Et en dessous, on l'appelle la voix organale, l'organe, hein. Et on a une musique à deux voix. Alors, comment elle est arrivée? On peut imaginer que les voûtes de ces établissements sont très élevées, très hautes, et qu'il y a une résonance, une réverbération. Et donc, quand le moine chante son chant grégorien, il entend sa voix revenir en écho, un petit peu décalée. Et ce décalage, eh ben, c'est une polyphonie déjà. Mais peut-être que c'est ça l'origine. L'origine, donc, de la polyphonie, c'est l'architecture.
Ouais, c'est fou ça.
Oui. C'est D'accord. intéressant. Alors, on peut écouter peut-être justement à partir de là une musique d'un des deux grands compositeurs de la cathédrale. Le premier, c'est Léonin. Léonin qui, lui, est né en 1150, il meurt en 1210. Il est responsable de l'orgue, du chœur, de l'école aussi. Hein, voilà, il est responsable de tout. Hein. Et puis, il écrit de la musique, il crée. Et on peut écouter cet organum à deux voix.
Eh bien, écoute cela tout de suite. Alors c'est fascinant ce qu'on a entendu, ces petits frottements là entre les deux voix. On dirait vraiment des choses un petit peu parfois contemporaines, c'est très étrange. Et vous me disiez hors antenne que en fait tout cela s'est passé avec la bénédiction quand même du Vatican.
Oui, c'est extraordinaire, cet art a été soutenu. Il a été soutenu pendant tout le siècle, pendant tout le XIIIe, et même le Vatican, très intéressé, avait envoyé des moines savants pour copier le livre. On est avant l'imprimerie, hein. Donc un livre, il est écrit à la main. Le grand codex de Paris, le Magnus Liber, on l'appelle le grand livre, eh bien, les gens vont venir le copier.
D'accord.
Et le Vatican envoie quelqu'un pour copier parce qu'ils veulent avoir cette technique d'écriture. Et puis, il est copié partout. Hein. Il est copié en Espagne, à Tolède, il est copié, les manuscrits vont partir en Angleterre, à Londres, en Allemagne, à Wolfenbüttel, etc., à Florence aussi également. C'est là où il y a la plus belle copie. Parce qu'on a perdu le livre de Léonin et de Pierrotin. Il a disparu. Le livre de la cathédrale a disparu.
Ah bon.
Heureusement qu'il reste les copies de l'Europe.
Oui.
C'est-à-dire que le Vatican soutient et surtout la musique de Notre-Dame va influencer toute l'Europe. Elle part en Europe et tout le monde va s'essayer.
D'accord, mais
à cet art.
Est-ce qu'il y a une émulation entre toutes ces cathédrales et ces édifices en Europe ou c'est vraiment la cathédrale de Notre-Dame qui influence tout le monde ou c'est pas un truc un peu réciproque, il y a pas une émulation entre
elles? Si, après, à partir du XIIIe siècle, il y a des polyphonistes espagnols qui écrivent magnifiquement aussi, des polyphonistes italiens aussi après. Mais au début, effectivement, D'accord. c'est un art complètement parisien. Hein. Et puis, on est à Paris dans un endroit de grands savoirs. Hein. Il y a là l'université. Quand on traverse, il y a déjà le collège
de la Sorbonne.
Oui. Et puis les écoles, les universités. Il y a le grand Abélard, Pierre Abélard, qui enseigne là un grand esprit. on traduit les ouvrages en arabe pour connaître la médecine, ce que les Arabes connaissent, hein, l'algèbre, la géométrie. On lit directement les ouvrages d'Aristote dans le grec. On parle grec et latin. Enfin, c'est vraiment un endroit, Paris, de grand savoir. Voilà. Alors, le grand compositeur, c'est pas Léonin qu'on vient d'entendre, mais c'est son successeur, un certain Pérotin. Pérotin le Grand.
Mais on dit Pérotin le Grand parce qu'il y en avait deux, ou c'est juste parce qu'il s'appelle Pérotin le Grand?
Oui, parce que non, il a été qualifié, il a été qualifié de Discantor Optimus, c'est-à-dire le meilleur pour le Deschamps, vous savez, pour la l'écriture.
Ah oui, d'accord.
C'est le meilleur.
Ah, ok.
Oh, c'est le Jean-Sébastien Bach du XIIIe siècle.
Ah,
oui. C'est le Mozart du XIIIe siècle. C'est un type incroyable. Alors, il a 10 ans de moins que Léonin, il lui succède à l'orgue, et puis il va développer autre chose. Il va développer de la musique à deux voix, à trois voix. Et à quatre voix. Ah, et oui. Là, on est vraiment dans la grande polyphonie du Moyen-Âge, avec Pérotin. Alors, ce que pourrait écouter, finalement, quelque part, c'est l'organum vu par Pérotin, un organum à trois voix. Et Pérotin, il va découvrir quelque chose de très important, c'est que la musique à trois voix, mais elle ne peut tenir, elle ne peut marcher que si on la rythme.
Ah oui.
Ben oui. Sinon, ça tombe à côté, c'est décalé. Hein, si on fait à la façon grégorienne, on se décale vite. Donc, il va inventer une musique qu'on va appeler la musique des mensurabili, en latin, c'est-à-dire la musique mesurée, avec une mesure.
Ah, ok.
Pour rendre compte tous les apports qu'il y a à partir de la polyphonie. Donc, on mesure cette musique, on y met des rythmes, il y a des modes rythmiques qui arrivent, c'est calé, ça tombe en place. Et on pourrait écouter cet organum parfaitement en place, justement, qui pourrait suivre maintenant.
Oui, le Cédérounde, c'est ça?
Oui.
Et bien, écoutons cela tout de suite. De Pérotin le Grand, c'était un Cédérounde, on appelle ça un organum à trois voix, Jean-Pierre Cabet. Je me demandais hors antenne, peut-être vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un organum, ça veut dire quoi?
Organum, ça vient de la voix organale, c'est-à-dire de l'organe, tout simplement, vocal. On est dans l'art vocal.
Ah, c'est fou ça.
Voilà, organe. D'accord. On est dans l'art vocal et il n'y a que de l'art vocal qui compte. Mais vous avez pu entendre l'évolution incroyable en l'espace de quelques années, en 30 ou 40 ans.
Ouais.
L'évolution, on a là une musique, une véritable musique composée avec des rythmes, avec des intentions. C'est très différent du grégorien. On est dans de la création. C'est-à-dire, ce Pérotin est compositeur. Enfin, il y a des compositeurs qui apparaissent. Un peu comme les peintres ou
qui voilà, s'émancipent les écrivains. Un petit peu.
On s'émancipe. C'est exactement ça. Alors, ils vont travailler avec des techniques, hein.
Oui.
Donc ils ont toutes sortes de techniques, on appelle le déchant, c'est-à-dire les mouvements contraires. Il y a une voix qui monte, l'autre qui descend. Mmh. Il y a le hoquet. C'est drôle le hoquet, parce que une voix se tait pendant que l'autre chante. Alors ça fait des hoquets, mais ça fait des spatialisations de la musique. C'est magnifique dans l'église. D'accord. Ils vont avoir le canon, bien sûr, le fameux canon. Vous savez, frère Jacques, c'est un canon. Hein. Tiens, justement, frère.
Ouais.
Oui. Et puis l'imitation, c'est-à-dire une voix chante et puis l'autre est décalée un peu plus loin, puis elle chante la même chose. En fait, il y a toutes sortes de techniques.
Oui. Hein,
et ces techniques, c'est l'école de Notre-Dame.
Mm-hmm.
Puis il va apparaître quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'on va écrire pour le conduit. Le conduit, c'est la procession.
D'accord.
C'est-à-dire, comme son nom l'indique, on marche et on chante en marchant. Et là, on va simplifier un petit peu, parce qu'on ne veut pas chanter des trucs trop difficiles en marchant.
Ouais, ouais.
Donc la musique est légèrement plus simple. Mais surtout, Perrotin va arrêter d'utiliser le chant grégorien, c'est-à-dire une voix grégorienne. Il va composer les quatre voix.
D'accord.
Alors là, l'émancipation, elle est totale. Il devient compositeur de la totalité de la musique qu'il écrit.
Ok.
Et alors, il va faire rentrer différentes techniques aussi, avec des mots qui va mettre dedans, qui ça va appeler sa clausule, ça c'est des termes un peu techniques, mais c'est des mots tout simplement, parce que c'est plus facile de chanter avec des mots que tout le temps avec des vocalises. Et ce conduit, ça va aussi être un art qui va être en grand développement. Hein. On pourrait peut-être écouter un conduit.
Oui, bien
Alors
sûr.
Cette fois-ci, le conduit que je vous propose, il est à quatre voix.
D'accord.
Oui.
Eh ben, écoutons ça tout de suite.
Amen.
Donc c'est un extrait toujours de Pérotin le Grand qui nous a composé là ici un conduit à quatre voix. Donc on se disait, on est toujours dans l'Ars Antiqua et oui, avec la bénédiction, si je puis dire, du Vatican. Et c'est, hein, vous me disiez, un vrai âge d'or. Hein. Là, on peut le constater. C'est vrai qu'au niveau créativité, c'est quand même assez fabuleux.
Oui, surtout qu'on était au grégorien 30 ans plus tôt.
Quoi. Ouais, c'est oui, incroyable. C'est, vrai qu'il y a, c'est fulgurant comme progression.
Ouais. Oui, oui, pour l'époque aussi.
Oui, pour l'époque. Ouais.
Sachant qu'un manuscrit, quand on vient le copier à Paris, un moine est envoyé du Vatican, mais envoyé d'Allemagne ou d'Espagne, il est envoyé à Paris pour faire une copie du texte. Il y a pas d'imprimerie, il y a pas de photocopieuse, hein. Donc il s'installe et il met 15 ans.
Ouais, quand même.
Oui, pour écrire, parce qu'il va non seulement écrire tous les textes, mais il va faire les enluminures de chaque début de page. Alors ouais, c'est une lettre, vous savez, avec de l'encre, ouais, de l'or, etc. Ouais. Enfin, ça lui prend 15 ans de copier un ouvrage.
Ouais, c'est fou ça. Hein.
Oui, oui. Donc en fait, le temps n'est pas le même à l'époque que maintenant. Et pourtant, la musique évolue très vite.
Ouais.
Contrairement à ce que c'était avant.
Ouais.
Alors.
Et donc après, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, alors. Il va, Pérotin, s'appuyer sur ces fameuses clausules, ces petits mots là qu'il a glissés à droite et à gauche pour tonifier sa musique, pour lui donner un assise un peu de syllabes. Hein. Mm-hmm. Et il va créer certainement la plus grande avancée du XIIIe siècle, c'est le motet.
Mm.
Le motet, comme son nom l'indique, ce sont des mots, des petits mots, le motet.
Ouais.
Et donc il va écrire de la musique où c'est chanté. Il y a des paroles. Et d'autres musiciens autour de l'école de Notre-Dame vont s'en emparer.
Ah oui.
Oui. Alors le motet, c'est fou, parce que on peut écrire en français, on peut écrire en latin, on peut faire n'importe quoi, deux voix en latin, deux voix en français.
Ouais.
Voilà. Il y a toutes sortes de choses. On peut aussi passer différentes voix avec des instruments de musique. Et ne garder que trois voix plus un instrument.
Ouais.
Deux voix plus deux instruments.
Ouais, tout à fait.
Il y a une bascule vers la musique profane, là, c'est-à-dire la chanson.
Oui.
Le motet, c'est la chanson, c'est l'origine.
Mmh.
Alors, on pourrait peut-être écouter comme exemple, un certain Philippe le Chancelier.
D'accord.
Philippe le Chancelier, il est chancelier de Notre-Dame de Paris, il est recteur de l'université. C'est un grand, ça, il est aussi chanoine, hein, mais c'est un esprit, hein, un grand esprit. Il va écrire des paroles pour Pérotin. Il est parolier. Mais il va aussi écrire des choses lui-même.
D'accord.
Et voilà un motet à trois voix qu'on pourrait écouter par l'ensemble Sequentia.
Très bien.
Et maintenant.
Eh ben, écoutons ça tout de suite. Sur Radio Rythme Bleu, il est 13h29 en pleine émission classique, l'heure classique, avec à l'instant Philippe le Chancelier. C'était un motet, et c'est vrai que vous me disiez, Jean-Pierre, que c'est une écriture assez élégante, hein, un peu différente du Pérotin qu'on écoutait il y a deux minutes.
C'est moins sacré.
Ouais, c'est vrai.
C'est moins sacré. Ça commence déjà à basculer un petit peu sur l'influence que va avoir l'école de Notre-Dame vers la musique profane. Mm-hmm. Et le chancelier va en faire aussi de la musique profane. D'accord. Il va faire des chansons. Et donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre cette technique de polyphonie et ne laisser plus qu'une seule voix. Et puis, les autres voix, ce seront des instruments de musique. Mais le groupe est né. Ouais. On est comme au XXe siècle, on a bien un chanteur, bon, des choristes, et puis des guitares, des pianos. Voilà, la chanson est née au XIIIe siècle. On pourrait écouter ce même Luto Carinthe, enfin, disons le même poème, parce qu'il est mis en musique différemment, de cette manière.
Très bien, Eh ben, écoutons ça tout de suite. Le chancelier, donc un Luto Carinthe pour instrument et voix, c'est de la musique polyphonique, Jean-Pierre. Donc oui. Là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là après?
Eh bien, ce qui se passe, c'est que les musiciens qui ne sont pas de l'Église, oui. C'est-à-dire ce qu'on appelle les profanes, oui. Les musiciens de variété, on dirait maintenant finalement,
oui, c'est vrai, ouais.
Les troubadours, les trouvères, vont s'intéresser à cet art. Voilà. Et le maître absolu de cet art profane au XIIIe siècle, c'est Adam de la Halle.
D'accord.
Oui, le bossu d'Arras. C'est vrai qu'il était bossu.
C'est vrai.
Il est né en 1240 et voilà. Et il va venir à Paris et il va étudier justement à la Sorbonne. Il va sortir avec un diplôme de maître des arts de la Sorbonne.
Plutôt pas mal.
Ouais. Et il va fréquenter évidemment tous les polyphonistes de Notre-Dame. Mm. Il va être extrêmement influencé.
D'accord.
Et donc sa musique va s'enrichir de façon considérable. Il ne fait qu'une musique d'amour, hein, des chansons d'amour courtois de l'époque, etc. C'est un troubadour, hein. Mm-hmm. On dit trouvère dans le Nord, et troubadour dans le Sud.
Oui, les deux se disent. Oui,
oui, voilà. Oui. Et lui, il va créer une forme nouvelle. C'est le rondo, c'est-à-dire c'est un motet, mais avec couplet refrain.
Oui.
On est dans la chanson.
Ouais, c'est
complètement.
La chanson. Ouais.
Voilà. Alors, on peut écouter un rondo de Adam de la Halle.
Tant que je vivrai, c'est ça.
Tant que je vivrai.
Tant que je vivrai.
Tant qu'on je vivrai.
Adam de la Halle, donc, né en 1240, une petite chanson de troubadour, un rondeau, Tant que je vivrai, c'était bien cela, Jean-Pierre ?
Oui, oui. Alors, en fait, Adam de la Halle, il écrit beaucoup, beaucoup de musique, mais je pense que ce qu'il va apporter au XIIIe siècle, c'est la création d'un art nouveau, la comédie musicale.
Ah oui.
Au XIIIe siècle, vous vous rendez compte ? Donc on est avant, bien avant la création de l'opéra, de l'opérette, hein, qu'on considère comme être créé par Monteverdi à la fin du XVIe siècle, vous voyez. Là, on est bien avant, on est au XIIIe. On est dans un siècle d'or, tout peut arriver.
Ouais.
Et justement, ce siècle est merveilleux. Comme je disais, il fait bon, il y a des récoltes, et on est riche. Le XIVe sera...
Peu de soucis. Hein.
Le XIVe sera terrible, ouais, après. Mmh. Parce que le XIVe, d'abord, c'est la peste noire.
Ouais.
Donc la moitié de l'Europe va mourir de la peste. Ça, c'est pire que le coronavirus, là.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Il y a 50 millions d'habitants en Europe, 25 millions vont mourir.
Mmh.
Et puis la guerre de 100 ans.
Ouais.
Voilà. Donc c'est une période noire, le XIVe. Mais le XIIIe, c'est une période qui permet toutes sortes de choses. Alors, ce Adam de la Halle va donc créer... une comédie musicale qui va appeler Le jeu de Marion et Robin, histoire d'amour. Et là, on est en costume, on dit des poèmes, on fait du théâtre, on chante des chansons, on joue la comédie. Mais on y est complètement déjà.
Ouais, c'est une vraie émancipation, c'est fou ça.
C'est fou, c'est un art nouveau qui est créé, mais de l'art profane pour le coup.
Ouais. Eh ben, écoutons un extrait. C'est une danse d'ailleurs, un saltarello,
ça
se dit. Hein. Et ça s'intitule Vous l'aurez bien dire. Alors c'était Adam de la Halle, compositeur né en 1240, donc on est en plein XIIIe siècle. C'est un extrait d'une comédie musicale, on peut dire ça comme ça, de Le jeu de Robin et Marion, et c'était un saltarello qui est une danse joyeuse, et on entendait que l'accompagnement était uniquement instrumental, ce qui tranche un petit peu avec ce qu'il y avait avant.
Ah bah oui,
voilà.
Les instrumentistes vont profiter des techniques vocales, de la polyphonie pour jouer ensemble, finalement. En fait, cet art nouveau, alors qu'on appelle l'ars antiquois, qu'on a appelé plus tard l'ars antiquois, mais pour eux c'est un art
nouveau.
Très nouveau. Ouais. Il va modifier profondément la musique et sur trois aspects fondamentaux. D'abord, on a dit l'évolution des techniques, donc l'apparition de la musique mesurée, de l'harmonie, c'est-à-dire de la science des accords, puisqu'on entend des choses verticales, de l'orchestration, on a des timbres, on a voilà. Donc là, il y a une profonde modification de la musique. Mais il y a aussi un deuxième élément, c'est la diffusion en Europe.
Oui.
Tout le monde vient copier, alors c'est l'engouement des voisins, hein, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, on a dit le soutien du Vatican, enfin, l'Europe s'empare de cette musique. Et puis le troisième aspect, qui certainement est le plus important, c'est la création l'emporte sur la tradition.
Ah oui.
C'est-à-dire que à partir de l'école de Notre-Dame et à partir de Perrotin, la musique va entrer dans un tourbillon créatif évolutionnaire. C'est très nouveau parce que dans les musiques que vous écoutez, qu'elles soient orientales, africaines, les musiques sont un petit peu figées. Elles sont les mêmes pendant des centaines d'années. On parlait du chant grégorien tout à l'heure, c'est la même chose. Hein, on est bien figé, on chante la même chose, on apprend la même chose. Alors là, d'un seul coup, de siècle en siècle, tout est modifié tout le temps. Donc va finalement succéder à l'ars antiqua, un nouvel art au XIVe siècle, on va appeler l'ars nova. Alors avec des rythmes nouveaux, des rythmes binaires, avec l'arrivée de nouveaux intervalles aussi, parce que là on a beaucoup travaillé sur les consonances, hein, l'octave, la quinte, la quarte, les consonances justes. Et au XIVe siècle, on va avoir la tierce mineure, la tierce majeure, des accords, des dièses, fa dièse, si bémol, etc. On va rentrer dans une musique plus technique, hein, à partir de là. Et puis, c'est la création. Et la création, ben, c'est tout le temps, de siècle en siècle, la musique. À la Renaissance, elle est modifiée. Au niveau baroque, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est une nouvelle musique. Au milieu du XVIIIe, c'est la musique classique, celle de Mozart. Et de Haydn, de Beethoven. Et puis après, dès le 19e siècle, on fait une musique romantique, hein, avec Schubert, Schumann, etc. Et puis à la fin du 19e, la musique devient impressionniste en France, dodécaphoniste en Allemagne. Enfin, elle n'arrête pas de bouger, d'évoluer. C'est cet art de la nouvelle méthode de la création. C'est l'école de Notre-Dame qui le lance.
Et là, on a un compositeur qui s'appelle De Vitry. C'est bien cela?
Alors, on est au début du 14e siècle. Alors De Vitry, c'est un immense compositeur qui il était à la cour de Philippe le Bel, hein, et puis il a été à la cour du pape à Avignon, il va fréquenter Pétrarque, un grand poète italien, et il va retravailler un petit peu les motets de l'ars antiqua, il va les modifier en apportant ce que je vous disais, des tierces, des modulations, etc. On pourrait écouter In Arboris de Philippe de Vitry, un motet à trois voix.
Eh ben écoutons ça tout de suite.
Yeah.
De Vitry, c'était un motet à trois voix. On est au début du XIVe siècle, hein, c'est bien cela. Hein. In Arboris, voilà. C'était. On est en plein dans l'Ars Nova.
Voilà. Alors l'Ars Nova succède à l'Ars Antiqua, mais finalement la grande figure, c'est pas De Vitry. La grande figure, c'est Guillaume de Machaut.
Ah oui.
Oui.
Ouais.
Alors la France en lui a rendu hommage. Il y a un timbre avec l'effigie de Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut, il est à Reims, lui. Hein, ouais. Mais il est très influencé par Notre-Dame.
D'accord.
Alors il écrit. De la musique profane, il adore ça, il écrit des ballades, des motets, des rondeaux, des chansons, etc. Et puis, il va créer quelque chose, il va créer cette fameuse messe de Notre-Dame, qui est sa plus grande œuvre. Donc, d'accord. Il rend hommage à Notre-Dame, à cette école, et puis il écrit une messe entière. Et pour la première fois, on va donner en concert une messe en entier. La messe devient une forme musicale.
Oui.
Et puis, ça va continuer. Il y a la magnifique messe en si de Bach, il y a une messe il y a des messes de Mozart, de Beethoven, voilà, la messe devient un genre.
Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire qu'on n'est plus obligé de l'écouter pendant une cérémonie, ça devient quelque chose qu'on peut écouter en dehors d'une messe, en
voilà. C'est une messe, c'est comme une symphonie, finalement. Ouais, ouais. C'est incroyable.
Ouais.
Alors, on va pas passer de musique de Guillaume de Machaut, parce que je vais vous proposer de venir écouter au conservatoire demain. À partir de 17h et à 18h, il y a donc ce concert. Vous allez jouer d'ailleurs dans ce concert.
J'ai l'impression.
Oui. Et avec l'ensemble Pulcinella.
Tout à fait.
Oui. Et donc, ils vont donner un extrait de la messe de Guillaume de Machaut, le Gloria.
Voilà. Qui est très beau d'ailleurs.
Oui. Oui. Et donc, on entendra demain. Donc, on va laisser un petit peu quelques points.
Hein, exactement.
Voilà.
Un petit peu de suspense. Et là, du coup, on va voir un petit peu de Bach. C'est ça?
Oui. Alors, en fait, la musique, donc, je vous le disais, elle évolue.
Oui. Hein,
elle évolue, mais l'esprit de Notre-Dame, l'art gothique, cette lumière, ce plein chant, cette foi profonde, une musique un petit peu spirituelle, cosmique, eh bien, elle va subsister. Elle va subsister jusqu'à notre XXe siècle, et on va en parler, parce qu'il y a des grands compositeurs au XXe siècle qui écrivent de la musique autour de l'école de Notre-Dame, c'est Steve Reich, c'est Ligeti. Mais il y en a un qui a été très très influencé par les motets de l'école de Notre-Dame, c'est Jean-Sébastien Bach.
Oui, indéniablement, c'est sûr. Ouais. Et ben, du coup, nous allons écouter Jesu, meine Freund. C'est classé dans le catalogue BWV 227. Un extrait, tout de suite.
C'est un motet.
C'est un motet. un extrait d'un motet de Jean-Sébastien Bach, BWV 227, classé dans le catalogue, Jesus mein Freund, Jésus mon ami. C'était René Jacobs qui dirigeait l'ensemble Akamus de Berlin, l'Académie de musique ancienne de Berlin. Et donc, Jean-Pierre, vous disiez tout à l'heure que ça va déboucher sur des musiques contemporaines, des musiques actuelles, oui. En fait, que toute cette tradition, en fait, dont on vient de parler jusqu'à maintenant pendant une heure, ben, elle débouche sur une musique actuelle.
En oui, fait. Dans les musiques, on va dire
contemporaines.
Oui, c'est ça. Mais tout au long de l'évolution de Notre-Dame, on a fait de la musique sacrée dans Notre-Dame. Moi, j'ai quelques souvenirs aussi, parce que ma fille avait été étudiante au collège et à la maîtrise de Notre-Dame. Ouais. Elle chantait. J'habitais Paris. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup fréquenté Notre-Dame. Et à Notre-Dame, il y a toujours cette école de musique sacrée. Ouais. Elle est toujours là. Ouais. Et on chante toujours toute la musique sacrée, mais sur 900 ans. Ouais. Alors, on chante bien sûr Machaut, Perrotin, mais on chante aussi Britten, Benjamin Britten, compositeur anglais. On chante Maurice Duruflet, le grand compositeur français. On chante Arvo Pärt, le compositeur finlandais. On chante Boccherini, Vivaldi, Bach, etc. Mendelssohn, tout est chanté à la cathédrale. Et demain, d'ailleurs, vous faites avec l'ensemble Pulcinella un petit...
contrepoint.
Oui, voilà. Oui. Vous allez chanter un petit peu toutes sortes de compositeurs sur 900 ans. Comme
oui,
ça.
C'est vrai. Oui. Voilà. Il y a une large palette de compositeurs. Oui.
Et tous ces compositeurs, c'est l'esprit aussi de Notre-Dame. Ouais. Alors, arrivé au XXe siècle, il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a des compositeurs qui vont se dire influencés directement.
Oui.
Par Perrotin, il s'agit du compositeur américain Steve Reich. Alors vous savez, Steve Reich, il est toujours vivant, hein.
Ouais.
Et il écrit en 1995 une œuvre pour cinq voix et percussions. Alors percussions, il y a deux vibraphones, deux orgues électriques, et puis cinq voix. Alors deux sopranos, trois sopranos, deux ténors. Et puis ce qu'il va faire, c'est que c'est quasiment a cappella parce que les instruments sont très discrets. Voilà. Et il va dire, c'est l'organum Winderut omnes qui est la source d'inspiration. Et on va le reconnaître d'ailleurs, ce qu'on l'a entendu tout à l'heure, l'organum de Perrotin.
Oui.
Voilà. Avec, pour lui, c'est un compositeur minimaliste. Hein,
oui,
vous savez, c'est
sûr,
un compositeur la musique est un petit peu qui évolue doucement. Et puis les paroles, c'est comme il suffit d'une petite pensée pour remplir toute une vie.
Ah ben c'est joliment dit, on va écouter ça tout de suite. Alors cette entrée des ténors, alors déjà c'était Steve Reich, hein, c'était une composition pour deux vibraphones, deux orgues électriques et cinq voix, qui s'appelle Proverbe. Ce qu'on se disait, c'était que l'entrée des ténors rappelait un petit peu le Perrotin qu'on a écouté tout à l'heure, qui était rythmé là.
Oui, titatata, titata, comme ça, avec un rythme ternaire. De l'époque. Vous savez, le ternaire au XIIIe siècle, c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est que le ternaire? Le ternaire, ça veut dire qu'on coupe le temps en trois parties égales. Ouais. Le binaire, c'est qu'on le coupe en deux parties égales. Et on coupait en trois parties égales parce que le ternaire, c'était la Trinité, c'était le divin, c'était la musique parfaite, la musique la plus pure. On coupait en trois. Alors après, c'est seulement après qu'on a commencé à couper en deux, oui. Pour faire des choses un peu à deux temps, à quatre temps, etc.
Alors Steve Reich, c'est pas le seul compositeur contemporain à avoir été influencé. Il y a aussi ce compositeur que personnellement j'adore, qui s'appelle Gheorghe Ligeti. On l'a déjà écouté dans cette émission, dans cette heure classique, compositeur hongrois. Et il est très connu puisque c'est le Lux Eterna qu'on retrouve, qu'on a, pour les cinéphiles ou qui ont vu le film, qu'on retrouve dans 2001, l'Odyssée de l'espace.
Oui. Oui, c'est extrait de son Requiem, en fait.
Oui, c'est vrai.
Et, donc Stanley Kubrick va, prendre ce Lux Eterna. Stanley Kubrick, c'est un metteur en scène qui aimait beaucoup la musique classique, en a mis beaucoup dans ses films.
Effectivement, oui. Pense et notamment à Barry Lyndon, là, Schubert, le trio de Schubert.
Ouais. Et puis avec la sarabande de Handel aussi.
Aussi, ouais.
Et là, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a aussi quantité de musique, hein, des valses de Strauss, etc. Et puis, il y a un moment où il se perd dans l'espace complètement. Il va en dernière partie du film. C'est la partie qu'on a du mal à comprendre.
Oui.
la vision de Stanley Kubrick. Et là, il y a cette musique qui accompagne cet astronaute dans l'espace. Là, c'est incroyable parce que on est... tiens, ça s'appelle Lux Eterna.
Lumière éternelle.
Lumière éternelle. Voilà, on peut l'écouter avec... là, pour le coup, il s'agit de l'ensemble Aedes, avec la direction de Mathieu Romano. Ça a été fait à Paris.
Oui. Hein.
Non, à Vézelay. C'était les rencontres musicales de Vézelay, très exactement.
Mais c'est un ensemble français.
C'est un ensemble français, ouais.
Bah, écoutons ça tout de suite.
Thank you.
de Gheorghe Ligeti, un extrait de son Requiem qui s'appelle Lux Aeterna, Lumière Éternelle, une composition pour 16 voix, vous me disiez Jean-Pierre. Bon, là, c'est vrai que gros intervalle, hein.
Oui.
Gros intervalle, et puis il faut surtout une grosse technique de la part des chanteurs, sans doute l'oreille absolue.
Oui, il n'y a plus de tonique, il n'y a plus de tonne. Là, la teneur, elle est morte depuis longtemps. Ouais. Mais en même temps, l'esprit de l'école de Notre-Dame, il est là. C'est la lumière, la spiritualité, la croyance, la foi.
Oui, c'est vrai. Et puis mine de rien, il y a cette écriture contrapuntique avec les voix qui s'entremêlent. Il y a quelque chose de toute façon qui est resté à travers tous ces siècles.
Donc ces gens de l'école de Notre-Dame, est-ce qu'ils ont inventé la musique? Certainement pas. On n'invente pas la musique. Mais ils ont inventé un art qui va se perpétuer tout au long des siècles,
qui continuent. C'est pas fini.
Oui, ils ont posé les bases d'un art. Et quand on écoute la radio, justement, une chanson. Mais on a tout ce qu'il y avait dans l'art du XIIIe siècle.
Oui, c'est vrai.
Les paroles, la musique, la polyphonie, la danse, les rythmes, la mesure, les accords.
Oui, c'est un testament incroyable.
Ils nous ont laissé quelque chose d'incroyable. Oui.
Bah, écoutez, c'est magnifique. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission.
Merci.
On peut vous retrouver demain, donc au conservatoire. Ça commence à 16h. Vous serez à 17h pour intervenir, avec le concert à 18h. L'ensemble Pulcinella. Et voilà, c'est la fin de votre heure classique. Vous revenez quand vous voulez, Jean-Pierre.
Hein. Je vous remercie.
Je vous remercie pour votre attention à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Les épisodes sont disponibles forcément à la réécoute sur le site de Radio Rythme Bleu. Merci à Thierry pour la réalisation de l'émission et très bon week-end à tous.